Parmi toutes les choses primordiales qui, dans la vie, semblent cruciales, figure pour une majorité l'obsession de vouloir durer. L'envie de traverser le temps et d'être constamment en mouvement est pour certains une obsession, voire parfois une aliénation. Faire au mieux pour laisser sa trace peut paraître loufoque ou cocasse, même si, dans certains cas précis, c'est une manière de dire merci. Générique.
Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre ?
Alors, je vais me confier. Je me confie rarement, mais je me confie ce soir.
C'est d'écouter son cœur, c'est de se poser, de respirer. Il n'y a rien de mieux que la respiration.
C'est oser les choses. Oser, c'est gagner.
De ne pas pardonner, ça ne ramène personne et ça fait gagner les bourreaux.
Sois pas un mouton et fais ce que toi tu veux être et crois en toi et va de l'avant.
Et je veux dire l'amour, parce que sans l'amour, les hommes ne sont pas grand-chose.
Il faut être sûr de soi et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
Les amis, nous sommes donc aux passeurs de clés. Les passeurs de clés, 121e épisode. Déjà, que le temps passe. En 3 ans et demi, déjà 120 rencontres. Et aujourd'hui, la 121e avec mon invité qui est juste en face de moi, qui prend le temps, voilà, de déguster son assiette. Puisque nous sommes ici, rue Chevreul, à Lyon, quelque part, dans un endroit que je laisserai mon invité présenter, puisque c'est lui qui me l'a conseillé. Ça s'appelle le Kitchen. Voilà, nous sommes en terrasse. Il fait beau, il fait bon. Et je suis sûr qu'on va encore passer une belle heure ensemble avec un parcours de vie et puis aussi de belles surprises pour mon invité et puis aussi de beaux moments, de bons échanges où tu auras à la fin bien entendu les fameuses trois clés de mon invité, des passeurs de clés, parce que c'est un peu l'objectif. Je suis venu ici pour chercher trois clés de vie et donc voilà, donc mon invité aujourd'hui, eh bien alors je vais pas donner son vrai nom, ça te dira rien, je vais donner son nom de scène. Il s'appelle Kent, c'est un artiste que tu as certainement connu dans les années 80-90. C'est un artiste lyonnais qui aujourd'hui n'est plus à Lyon, mais qui a toujours le cœur quelque part un peu à Lyon. Il a accepté de me rejoindre pour jouer le jeu des passeurs de clés. Alors on ne se connaît pas du tout avec Kent, c'est la première fois qu'on se rencontre. On ne s'était même pas parlé au téléphone, ou si peut-être une fois, je ne sais plus. Mais en tous les cas, c'est l'occasion de se découvrir. Alors bah voilà, moi je suis arrivé un peu avant, je l'ai attendu. Il est arrivé, on est enfin ici pour se rencontrer, parler de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire. Et puis aussi de découvrir cet homme que j'ai en face de moi, que je sens serein, je sens heureux. En tous les cas, quand je regarde dans les yeux, on dit toujours que les yeux c'est la porte de l'âme. Je vois quelqu'un d'empathique, je vois quelqu'un d'ouvert, de curieux, à l'écoute, et qui à sa manière au quotidien essaye un peu ou beaucoup de changer un peu ce monde et de faire en sorte que ce monde soit, faire sa part de colibri pour que ce monde soit un peu plus lumineux, un peu plus bleu. J'envoie le mot lumineux parce que tu verras que ce mot, à mon avis, va revenir fréquemment. C'est pour ça que je suis très heureux d'accueillir donc Kent pour les passeurs de clés. Bonjour Kent.
Bonjour.
Hop, un petit peu de son, c'est mieux.
Voilà, c'est mieux. Bonjour.
Bonjour. Déjà, bon appétit.
Merci.
Ici, on fait comme on sent. On fait, et quand on n'a pas envie de faire, quand on n'a pas envie de dire, on ne dit pas. Voilà, c'est en toute liberté. Il n'y a rien qui s'impose. Alors, on entend beaucoup de bruit autour de nous, mais c'est normal. On est en terrasse ici. Voilà, il y a un bus, il y a des personnes qui mangent. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. Et Dieu sait que c'est bien d'avoir la vie autour de nous et que ça vive. Déjà, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Un peu particulier, puisque c'est un podcast où on échange, où on se raconte, où on donne un petit peu une part de soi. Surtout, on donne aussi aux autres. Avec sa vision, avec son expérience. La première question que j'ai envie de te poser, Ken, c'est pourquoi avoir accepté de participer à ce podcast, de jouer le jeu ?
On va laisser passer le...
La belle moto, voilà, c'est ça.
Je ne sais pas si c'est une belle moto, mais en tout cas, il a l'air d'y prendre plaisir. Pourquoi j'ai accepté ? Parce que tu me l'as demandé, voilà. Ouais. Il faut dire la vérité en tout, parce qu'on devait faire une autre émission ensemble.
Exactement.
Qui a été annulée. Ouais. Et comme j'avais prévu de qu'on se voit, tu m'as proposé ça et j'accepte volontiers parce que j'aime bien parler. Tu parlais de passeurs, de choses comme ça, de personnes qui veulent faire changer le monde,
Colibri, ou
évoluer le monde. Écoute, j'en sais rien, je sais que pour ma part, j'essaye d'évoluer. Et après ça, comme je fais un métier artistique avec des moyens d'expression divers, comme le dessin ou la musique, À travers ça, je passe mes sensibilités, voilà, qui même me suivent, même dans mes erreurs.
C'est ça. En fait, ce ne sont que des expériences. Il n'y a pas d'erreurs, des expériences.
Absolument.
Ce que j'ai, là où j'ai été extrêmement étonné, c'est que moi, je te connaissais effectivement comme chanteur, auteur, compositeur, interprète. Mm-hmm. Je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas la partie BD, roman, écriture, dessin. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, ce profil polyartistique, c'est en fait multi-artistique?
Oui, sans doute. D'abord, ça répond à des désirs d'enfance et d'adolescence au départ. L'enfance, c'était d'abord le dessin. J'ai aimé la bande dessinée dès que j'ai ouvert le journal de Mickey. Et je me suis passionné pour ça, au point de rêver d'être dessinateur de bande dessinée, mais très, très tôt, quoi, dès l'âge de 8-9 ans. Et puis ensuite, est venue l'adolescence avec la musique de mon époque qui était le rock and roll. Et quand j'ai entendu ça, j'ai voulu aussi faire de cette musique-là, que je trouvais très excitante. Et la chance a fait que j'ai pu effectivement faire ces deux choses-là en parallèle dès ma jeunesse et que ça marche. Et ensuite est venu se greffer d'autres choses parce que j'écrivais des chansons qui apparemment plaisaient. Un éditeur ou deux sont venus me contacter pour me demander si je pouvais écrire des romans. Je dis pourquoi pas, j'ai relevé le gant parce que ça m'intéressait de relever le gant. Mm-hmm. On m'aurait proposé de jouer dans une pièce de théâtre, j'aurais fait pareil. On m'aurait proposé un film, ce qu'on m'a proposé aussi, je l'ai fait. Tout m'intéresse dans la vie, dans le domaine artistique du moins. Même un peu plus d'ailleurs, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet.
Est-ce qu'on peut dire que tu es un homme de défi? Quelque part.
Oui.
Quand je parle de défi, c'est pas de prise de risque, mais en tout cas de défi, c'est-à-dire de vouloir relever quelque chose, et quand t'en as envie, à ce moment-là, tu te lances dans le bain.
Oui, je suis curieux. Avant tout, je suis curieux. Voilà, c'est ce qui fait que est-ce que je me lance des défis, j'en sais rien. C'est ce qui fait que j'accepte des choses ou que je vais aller voir ailleurs comment ça se passe. Non pas si j'y suis, mais comment ça se passe. Et ce qui peut dérouter beaucoup. Disons que artistiquement, je prends des risques en étant comme ça, parce que je ne suis pas mon petit bonhomme de chemin. Je déteste les recettes. Dès que je me rends compte que je suis dans la recette, je me détourne, je fais autre chose. Voilà, donc c'est déroutant pour les gens qui m'aiment à un moment donné sur quelque chose que j'aurais fait et qui ne me retrouvent pas la fois suivante. Mais j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà, je vais être sincère avec moi-même, c'est comme ça.
Sincérité et aussi la recette, peut-être aussi une part d'affect émotionnel à laquelle tu es à l'écoute, certainement.
Alors, affect émotionnel, je réponds à j'ai pas d'autre mot que la curiosité. Je sais pas pourquoi mettre autre chose. Franchement, je crains l'ennui, je crains la routine, même dans la vie courante. Je suis en mouvement en permanence, je sais pas tenir en place, ou alors un certain temps parce que j'ai trop bougé, donc à un moment donné je pose mon cul et je suis là, je vais me dire je suis bien, j'arrête, et puis au bout d'un certain temps je repars. Voilà.
Alors je le disais, on est rue Chevreul, c'est toi qui m'as proposé cette adresse, que je ne connaissais pas le lieu, je connais le quartier mais je ne connaissais pas ce lieu. Premièrement, pourquoi ce choix? Et deuxièmement, c'est aussi un peu une tradition dans ce podcast, si tu devais présenter ce lieu là où nous sommes, avec toi qui écris des romans, qui sais écrire et qui sais raconter, qui aime raconter avec tes mots et tes yeux, pour que celle ou celui qui nous écoute puisse s'immerger avec nous pendant tout cet échange.
Alors attention, j'aime bien décrire, mais je n'ai pas le verbe et le mot facile. Je fais beaucoup de ratures quand j'écris, aussi bien mes chansons que mes romans, il y a beaucoup, beaucoup de ratures et d'hésitation. Donc là, je vais parler, je vais bafouiller, je vais peut-être dire des conneries, mais voilà, ça fait partie du jeu. Alors pourquoi cet endroit, c'est surtout pourquoi ce quartier? Parce que j'ai de la famille dans le coin.
D'accord.
Hop, une mobilette.
C'est ça.
Et que je connais un peu tous les lieux alentour. Okay. Et que je trouve que j'aime beaucoup ce quartier, qui a vraiment changé. Je l'ai connu il y a plus de 30 ans, facile. Et c'est un quartier que je détestais. Enfin, détester, c'est un grand mot.
Je n'aimais pas,
je m'ennuyais. Il n'y avait rien de vivant pour moi, à mon goût. Et puis, il a changé, comme Lyon d'ailleurs, comme la ville. Depuis que je l'ai quitté, cette ville a beaucoup, beaucoup changé. Et je pense qu'aujourd'hui, j'habiterai à Lyon, je ne partirai pas de Lyon.
Ah oui ?
Oui. Oui, c'est vraiment une Lyon. En 88, quand j'ai quitté, je m'ennuyais. C'était une ville barbante. Elle avait connu une explosion rock, dont j'ai fait partie avec le groupe Star Shooter. Et ça a duré, allez, on va dire, 4-5 ans. Et après, elle est retournée dans une espèce de comment... pas sommeil, mais
léthargie.
Enfin, voilà. Léthargie, okay. Merci.
Voilà. Je t'en prie.
Et bon, voilà, ça me convenait pas, ça me tenait pas en éveil. Donc c'est pour ça que je suis parti. Et donc ce quartier correspondait en fait à ce que je pensais de Lyon, et je l'ai vu évoluer. La ville s'est rajeunie, du fait des universités dans le coin et tout ça. Et puis peut-être à cause ou grâce aussi, parce que c'est toujours à cause, mais d'une certaine gentrification. Le quartier a bien changé. Il y a des lieux comme ça très sympas où on peut justement, il est 14h30 et j'ai commandé à bouffer, je peux bouffer. On est dehors, on est sur une terrasse, c'est super. Voilà, ben, c'est bien. Puis le soir, on peut boire des bières un peu partout, dans des lieux vachement sympas, qui sont très divers, aussi bien des lieux d'étudiants que des lieux très populaires. En face, il y a...
un bar café,
ouais. Je ne me rappelle plus du nom. Je me rappelle. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est une clientèle d'habitués depuis toujours là. Et c'est chouette aussi.
Je sens que, alors, par rapport à ce que tu as pu esquisser, mais on va y revenir un tout petit peu par la suite, de ce que tu as pu esquisser, de tes souvenirs justement, de cette découverte, de cette explosion du rock, aussi de justement des choses qu'on fait entre camarades, qu'on fait en groupe, en potes. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. J'ai l'impression de cette notion d'être en groupe, de partager des choses. Là, tu parlais de ce café derrière où il y a des habitués. C'est là où ça parle, là où ça partage, là où ça crie, là où ça rit, où ça pleure, en fait.
Bah écoute, c'est la convivialité avant toute chose. Et aussi bien dans un quartier que dans ma vie professionnelle, j'apprécie avant tout ça, une certaine convivialité. Je suis... alors, ce qui peut être contradictoire, je suis un peu ours. C'est-à-dire que je ne lis pas facilement avec les gens. J'aime être seul. Mais malgré tout, quand j'entreprends quelque chose, j'aime être entouré de gens de confiance, donc si possible de gens que je connais, avec qui je ne partage pas que des liens professionnels. Je ne suis jamais monté sur scène avec des musiciens professionnels qu'on paye, qu'on va chercher. Voilà. C'est toujours des gens que j'ai croisés, que j'ai aimés, et à me dire, tiens... on va faire quelque chose ensemble. Et c'est pareil pour tout. Je parlais des éditeurs. Un éditeur, je ne sonne pas une porte en me disant voilà, j'ai besoin de savoir si je vais m'entendre avec la personne.
S'il y a quelque chose qui passe.
C'est autre chose qu'un contrat. Et, bon, pour moi, c'est le béaba de la vie. C'est tout. Voilà, c'est un truc. C'est pour ça que je suis très déstabilisé par les rapports aujourd'hui. Non présentiel.
Voilà. Distanciel. Ouais.
Distanciel. Ça me perturbe beaucoup. Il m'est arrivé de travailler avec des gens que j'ai finalement jamais vus. Et je ne comprends pas de leur côté comment ils font, honnêtement. Moi, j'ai dû le faire, j'avais pas d'autre solution. Mais eux, de leur côté, je ne comprends pas. Je ne saisis pas l'intérêt de la chose.
Alors, le lieu, justement, juste pour revenir à cette immersion. Comment est-ce que tu, allez, on va dire en quelques mots, tu décrirais le lieu dans lequel, enfin, en tout cas, nous sommes sur une terrasse, je l'ai dit tout à l'heure, en extérieur, mais pour que l'imagination de l'autre côté fonctionne et que la personne ait la sensation d'être à la table juste à côté de nous, là.
Voilà, donc on est sur une terrasse, c'est un lieu qui est assez petit à l'intérieur, il y a quelques tables, on sert à manger et à boire du salé, du sucré durant la journée, pas le soir. Parce que le soir, les gens vont peut-être au...
Ils ont une vie.
Voilà, ils vont peut-être
au café,
au restaurant. Ils ont marre de servir. Et déjà ça, c'est assez amusant comme démarche. Et puis, je ne les connais pas nommément. Parce que, encore une fois, je viens à Lyon assez fréquemment. Mais de là à connaître les gens ici... J'en connais au café dont je te parlais tout à l'heure. D'accord. Mais là, non, je ne connais pas. Quoi.
Ça s'appelle la cuisine. Hein. C'est le kitchen, mais ça, c'est la cuisine.
C'est ça, la cuisine.
Donc, il y a le côté convivial aussi. Hein. Le côté assez...
Mais c'est que ça. C'est, c'est ce qu'on recherche. C'est le bon côté, justement, des lieux dans les... encore une fois, les quartiers gentrifiés. Il y a une recherche de ça. Des fois même, ils mettent tellement les points sur les i que ça en devient artificiel. Mais au bout du compte, quand la recette est réussie, c'est bien. Aussi bien à Lyon qu'à Paris que partout ailleurs. Il y a ce truc, c'est sympa. Tu viens avec ce que tu es et on t'accepte tel que tu es. Qui que tu sois. C'est-à-dire qu'un vieil habitué peut venir s'installer ici. S'il veut manger, il peut... un genré ou non genré vient, il peut aussi. Voilà, il n'y a pas de souci de
que ce soit pour le travail ou que ce soit pour autre chose.
Que ce soit pour le travail, que ce soit pour le plaisir, voilà, ça se passe bien. Et
on est bien accueillis en plus. Bah, toujours avec le sourire. En tout cas, moi j'étais accueilli avec le sourire tout à l'heure.
Moi aussi.
L'autre question que je pose toujours au début de ce podcast à mon invité, c'est. Je demande toujours un petit peu, alors c'est une question forcément qui peut paraître piège, mais qui ne l'est pas du tout. Si tu devais te présenter ou te définir, ou d'abord pitcher, mais en une ou deux phrases, tu dirais quoi de Kent ? Je sais que c'est un exercice compliqué, mais enfin pour certains ça peut être simple, pour d'autres ça peut être compliqué. Comment est-ce que tu te définirais ?
Hop. J'aime pas les définitions, je les fuis.
D'accord.
Je suis immensément modeste. C'est mon principal défaut. Non, mais c'est une connerie. Non, je ne sais pas. J'aime pas les définitions. Honnêtement, j'aime pas les définitions parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un de changeant. Je me comporte là en ce moment avec toi parce que je ne te connais pas. Tu t'appelles Cyril Lichamp, je parle avec toi, on vient de faire connaissance.
Ouais.
Je me comporte d'une certaine manière. Je vais voir une autre personne, je vais me comporter d'une autre manière.
Okay.
Là, on est. Ouais, je m'adapte parce que là, j'ai un micro devant moi, donc déjà, c'est une démarche, j'allais dire, qui n'est pas naturelle, mais si, au bout du compte, parce que ça fait quand même 40 ans que je parle dans des micros, donc ça le finit par l'être. Mais voilà. Et après, selon la situation, selon la personne que j'ai en face de moi, son sexe, je vais être différent. Et c'est ce que j'aime observer, aussi bien chez moi, d'ailleurs, que chez les autres. Ça m'amuse de voir des gens que je connais et de les voir changer d'attitude selon les personnes avec qui ils sont. Et enfin, ça m'amuse ou des fois, ça me surprend.
En tout cas, ce qui est génial, c'est que sans même donner une définition, quelque part, tu as expliqué qui tu étais, de la manière dont tu devais.
Ben, voilà.
C'est-à-dire, voilà, tu t'adaptes et puis là, on parle de la curiosité tout à l'heure.
Ouais.
Donc cette curiosité, de vouloir essayer de découvrir au mieux celui qui est en face de toi ou pas, de pouvoir aussi mettre cette barrière dont tu parlais, cette distance s'il y a besoin. Je voulais savoir si les voyages, c'était quelque chose d'important dans ta vie. Ça avait été quelque chose, c'est toujours quelque chose d'important. Le fait de voyager, de bouger, de...
Ça l'est toujours, mais pas de la même manière. Voilà. Mm-hmm. Quand j'étais jeune, je voulais voyager loin, comme souvent quand on est jeune, sac à dos, et puis partir à l'autre bout du monde, voir ailleurs si j'y suis. Et je me suis... Bon, bah, évidemment, je l'ai fait. Ça m'a plu, j'ai vécu des choses vraiment, vraiment bien, d'autres nulles aussi, mais enfin bon, c'est comme ça. Et mais surtout, je me suis rendu compte que j'allais ailleurs, alors là, c'est presque, encore une fois, à l'opposé de ma curiosité, on va dire. Je pensais aller ailleurs pour les gens que j'allais voir, ce qui était le cas, mais c'était avant tout. Avant tout, je me fuyais, voilà.
Ok.
Je me fuyais. Bon, voilà. Et un jour, je m'en suis rendu compte et je me suis dit, à quoi bon aller loin si c'est pour se fuir ? On peut très bien
se fuir en
se fuir sans bouger, là, en simplement. Je sais pas. J'avais un complexe aussi de d'où j'étais, de qui j'étais. J'aimais pas le côté. Blanc occidental avec un passé de colon, j'avais l'impression d'avoir une dette par rapport au pays que j'allais visiter dans le sud-est asiatique ou en Afrique, mm-hmm. Des choses comme ça. Et je me comportais bizarrement, et même sans aller si loin d'ailleurs. Justement, je m'intéressais aux gens, puis quand ils me posaient des questions sur... Parce que quand on est avec un Indonésien en Indonésie, oui, j'étais curieux de savoir son mode de vie, comment il était, ce qu'il mangeait, ce qu'il pensait et tout. Et lui... De son côté, il me disait, mais tu viens d'où ? Qu'est-ce que tu fais ? Et puis, c'est comment la France et tout. Et moi, j'avais du mal à raconter ça en disant, c'est pas important. Ah, c'était absurde. J'avais fait des milliers de bornes pour me retrouver en face d'un gars comme ça, qui, lui, ne pouvait pas faire ce voyage. Et je me refusais de raconter ce qui me paraissait commun et voir...
Pompeux peut-être.
Ouais, gênant, prétentieux. Enfin, voilà, je voulais pas m'imposer.
Ouais.
C'était très bizarre.
C'est drôle que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure en rigolant, mais qu'en fait, cette humilité, c'est un besoin de ne pas se sentir au-dessus ou en dessous, d'être vraiment à un niveau égal. avec l'autre, avec ceux qui, avec qui tu vis, qui t'entourent,
oui, mais
avec
c'est...
le monde dans lequel tu vis.
C'était couillon, c'était un truc. Par exemple, je me suis rendu compte aussi dans ces voyages-là, c'était que, effectivement, j'étais curieux des autres, et quand on me posait la question sur des monuments parisiens et tout ça, je ne savais pas répondre. Je ne connaissais pas. Je connaissais moins l'histoire de Paris que la ville dans laquelle j'atterrissais, où j'avais lu plein de bouquins.
D'accord.
C'est absurde. Ouais. C'était un truc, c'était très bizarre, quoi. Et, mais je dis bizarre maintenant, parce qu'à l'époque, je trouvais ça, je trouvais rien. D'ailleurs, je réfléchissais pas. Et là, maintenant, bon, bah voilà, j'ai fait amende honorable.
Alors, moi, ce que je te propose, pourquoi je te parle de voyage, c'est parce que généralement, j'invite toujours mon invité à un voyage. Mm. Ce voyage est particulier puisque, en fait, comme tu l'as dit, on ne va pas bouger, on reste là. C'est un voyage dans l'imaginaire, dans l'imagination, dans l'imaginaire. Alors pour ça, j'emprunte toujours la même chose parce qu'il m'autorise à le faire. J'emprunte la fameuse, tu sais, la DeLorean dans Retour vers le futur.
Ouais.
Cette voiture qui voyage, qui nous emmène un petit peu partout, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Alors, si tu es d'accord pour m'accompagner... Il m'a mis encore à disposition le Marty McFly et le Super Doc ont accepté que j'emprunte ce véhicule. Si tu es d'accord pour venir avec moi, eh bien on va monter à bord de ce véhicule et faire un petit voyage ensemble.
D'accord.
Ça te va ?
T'as assez d'ordures pour remplir les réservoirs ?
J'ai assez d'ordures.
Bon, c'est bien.
J'ai rubbish. On y va ?
Ok.
Allez, c'est parti. Les portes se ferment. Je tape sur le clavier une date, un lieu, la voiture décolle. Et là, ça y est. C'est parti. On voyage. Bien entendu, on voit rien. Mais... Et ça va tellement vite qu'on est déjà arrivé, la voiture se pose, les portes s'ouvrent, et on est arrivé. Ça, c'était super vite.
Oui, c'est vrai.
Par contre, l'endroit où nous sommes arrivés, moi, je reconnais pas. Alors, je crois reconnaître, mais je suis pas certain. Par contre, toi, tu as l'air de connaître l'endroit. J'ai la sensation que toi, ça te parle. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça te parle. Donc, on sort du véhicule. On avance tous les deux, on continue à parler justement, continue à avoir la discussion qu'on a là, et puis on parle du passé, du présent, du futur, on parle de ta musique, et puis à un moment donné, j'entends un bruit dans une espèce de un fourré qui est à côté de nous, un arbuste, un bruit. Je regarde, je vois rien, on continue à avancer, un bruit. Alors là, je m'interloque, on s'arrête. Je vais regarder, et là, sort du fourré, comme ça, en sautant, un jeune garçon, qui sort comme ça, sort la tête comme ça du fourré, qui regarde, il fait « Qu'est-ce que tu fais là, t'es qui ?» Je dis « Bah écoute, je pourrais te poser la même question quand même,
ouais.
Regarde, tu vois, je suis pas tout seul, je suis venu avec Kent, il m'a accompagné, vous êtes venu de quoi ou comment ?» Plein de questions, mais une curiosité folle. Je dis « Bah tu vois, regarde la voiture là-bas, c'est une voiture qui voyage dans le temps. » « Ah bon ?» Et là, le petit garçon va, fait le tour de la voiture, regarde, puis il revient vers nous, et on dit « Mais... Comment vous vous appelez ?» Je dis, bah, je te le dis, donc, tu vois, Kent. Et puis, moi, je m'appelle Cyril. Et toi ? Et moi, il me dit, et donc il répond, je m'appelle Kent.
Ah oui, d'accord. Et là...
Est-ce que tu te souviens, 6-8 ans,
ouais.
Qui était ce... Bien entendu, pas Kent,
ouais.
Hein, c'est ton nom de scène. Mais qui était ce petit garçon à 6-8 ans ? Est-ce que tu parlais de curiosité tout à l'heure ? Tu parlais de Mickey, tu parlais de la découverte, du dessin. Est-ce que c'était, tu l'as dit, curieux ? Mais est-ce que c'est une curiosité transmise, une curiosité naturelle ? Comment était ce petit garçon ?
Il était très timide.
Ouais.
Il était très timide, il était un peu malingre, autant que je me souvienne. Il était réservé et comme souvent les gens réservés et timides bouillonnant à l'intérieur, ça c'est clair.
D'accord.
Je crois qu'il n'avait pas. Je pense que je pouvais être bavard avec ma grand-mère ou mes parents ou mes cousins avec qui je jouais. D'ailleurs, eux me l'ont dit beaucoup plus tard. C'était un vrai moulin à paroles. Mais d'apparence, j'étais. J'étais timide et réservé. Et j'étais fils unique. Ça compte beaucoup parce que il a fallu que je me débrouille avec le fait de ne pas avoir de frères et sœurs pour savoir me distraire.
Mm-hmm.
Donc, ça, 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 comment,
ça a développé la curiosité.
Ça a participé à mon imaginaire.
D'accord. Ok, super.
Beaucoup. Mm. C'est ce qui a fait que, voilà, que je pouvais effectivement passer des jours et des heures sur une case du journal de Mickey à rentrer dans le dessin, à vivre la vie des personnages et à avoir envie ensuite de ou en même temps d'inventer la suite de l'histoire ou une branche particulière de l'histoire. Voilà. Et je n'avais pas de distraction. Je reviens dans le présent et je me rends compte que un môme de 6-8 ans aujourd'hui n'a pas ça. Parce qu'il y a tout pour le distraire, et pas que le môme. Toute la population est prise par ces petites boîtes là, qui sont posées sur la table et qu'on appelle les smartphones. Et qui fait que dès que tu t'ennuies, tu cliques dessus et hop, tu trouves un jeu, tu trouves quelque chose à faire.
Et ce qui en fait ne pousse pas à l'ennui, qui au final l'ennui peut permettre de développer la créativité, l'envie.
L'ennui crée la créativité. C'est parce que tu te fais chier que tu cherches à l'intérieur de toi quoi faire. Tu développes, encore une fois, cet imaginaire qui est, je pense, nécessaire à l'invention, quelle qu'elle soit, pas seulement artistique. Je pense aussi que Einstein a dû s'ennuyer pour pouvoir arriver à ses théories. Et voilà quoi. Et peut-être que Einstein aujourd'hui, il est sur son smartphone et puis qu'il en a rien à braire de ce qui lui passe par la tête.
Il n'aurait peut-être pas trouvé tout ce qu'il a trouvé.
Voilà. Moi, je pense qu'il y a un danger là-dedans quoi. Il y a un vrai danger de lavage de cerveau.
Intérieur.
Volontaire. Voilà. Excuse-moi, je cherche mes mots. C'est pas Rabelais, c'était.
Jean-Jean Wayne, 1984. Enfin.
Non, c'est la servitude volontaire, c'est.
Ah oui.
C'est. Oh punaise, le nom ne me vient pas.
Oui, tout à fait. Mais je vois tout à fait. Ouais.
Bref, peu importe. Il parlait de cette servitude volontaire, et bien maintenant, elle est là, elle est sur la table, elle est dans notre poche. Et. Je la trouve très dangereuse.
Voilà. Et ça, pour toi, c'est dangereux, oui.
Ouais.
Dans quel sens c'est dangereux?
De tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on s'échappe de notre fort intérieur en permanence.
Le discours de la servitude volontaire de la Boétie.
Merci.
Je t'en prie. Voilà. Ça peut aussi apporter des belles choses quand on sait l'utiliser.
Ouais.
L'écriture, c'est quelque chose qui est venu un petit peu plus tard. Est-ce que justement, l'école, par exemple, c'était un terrain de jeu magnifique aussi ou c'était barbant?
Je me suis jamais emmerdé à l'école. D'accord. En fait, aussi loin que je me souvienne, dès l'école primaire, je crois que j'ai aimé ça. D'abord, j'étais bon élève. Honnêtement, enfant, j'étais un bon élève, toujours dans les premiers et tout ça. Ça a un peu changé, ça a même carrément changé arrivé au collège pour des raisons d'adolescence et de rébellion et de je veux me faire remarquer et tout ça.
Et de rock.
Et de rock, ça fait partie. Ça fait partie du jeu, quoi. Voilà, donc ça a changé et mes années lycée, j'en garde un excellent souvenir. Un excellent souvenir parce que je me suis retrouvé dans une classe artistique qui était une classe pilote à l'époque.
Ok. Et donc ici à Lyon,
À Lyon, au lycée Saint-Exupéry, à la Croix-Rousse.
D'accord.
Et franchement, toute cette classe-là, qui était des gens qui avaient envie de faire quelque chose d'artistique, il y avait une moitié de la classe qui venait du conservatoire, qui faisait du conservatoire, et l'autre qui voulait faire le métier d'art plastique. Eh ben déjà ça te mettait à part, voilà quoi. T'étais pas matheux, t'étais pas économique, t'étais pas t'étais littéraire et encore moi j'étais pas.
Il y avait pas de case en fait.
Il y avait pas de case, il y avait une vraie liberté. Puis c'était encore le si tu veux, c'était 73, 5 ans après 68. On était encore dans cette expérience de nouvelle vie, de nouvelles façons d'enseigner. Il y avait une ouverture, il y avait le dialogue avec les professeurs qui venaient de se faire. Quoi. On se tutoyait pas, mais on pouvait se parler en dehors des cours. Il y avait des rencontres informelles. Tout ça était très nouveau et très excitant, du coup. Et il y avait des clubs théâtre, des trucs comme ça. Bon. Et moi, j'en garde un beau souvenir parce que quand j'entrais chez moi, je me faisais chier, quoi. J'habitais très loin, j'habitais à Mézieux, je faisais presque une heure de trajet en, en bus ou en, en mobylette pour rejoindre ce lycée.
Ici à Lyon.
Qui était, il y avait deux lycées qui avaient cette, cette option artistique, okay. Ampère ou Saint-Ex. Et comme à Saint-Ex, j'avais passé ma 6e et 5e, j'ai préféré revenir ici. Tant pis si je faisais une heure de transport. C'était, je m'en foutais, quoi. Et même dans mes moments libres, quand j'avais des heures creuses, plutôt que de errer dans les rues, je restais au lycée.
Il y avait du voyage aussi, là, en fait, au final. Dans cette heure de trajet, c'était l'occasion peut-être aussi de... On va dire de non pas réfléchir, au contraire, mais de s'évader. De...
Et tu sais quoi, je pense que s'il y a beaucoup de gens qui, dans les embouteillages, y trouvent leur compte pour cette raison-là. Mm-hmm. Je pense que c'est un sas, le transport. Ne parlons pas de voyage, mais de transport. Et si des gens sont tout seuls dans leur bagnole à mettre une heure pour rentrer chez eux, on se dit « Oh là, je ne voudrais pas vivre cette vie », je crois qu'à ce moment-là, la personne, elle est enfin avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle sort d'un boulot où elle est obligée, des fois, très souvent, de faire quelque chose qui ne lui plaît pas, où elle n'a pas, pas autorité. Mmh. Et puis, rentrer chez lui, retrouver soit un quotidien de solitude, soit une vie de famille encombrante, soit... voilà. Là, on peut aimer ses enfants, on peut aimer sa femme, mais on peut aussi aimer avoir un moment pour soi. Quoi.
Bien sûr.
Et souvent, j'y pense quand je vois les gens dans leurs embouteillages. Je me dis, ben voilà... C'est aussi un instant de liberté et pour beaucoup.
L'inspiration, parce que l'inspiration fait partie de ta vie, fait partie de ton métier, c'est quelque chose que justement, c'est travailler avec le temps, c'est-à-dire au fur et à mesure que tu as grandi, que tu as accumulé, que tu as engrangé, que tu as rencontré. Ça a été une belle expérience justement de travail, de créativité et puis d'inspiration.
Mais l'inspiration, c'est un drôle de truc. Moi, j'ai démarré dans le milieu artistique sans savoir ce vocabulaire, sans savoir ce que c'était un artiste. Ça n'avait pas lieu d'être un artiste dans ma famille. Je suis issu d'un milieu très, très modeste, ouvrier. Voilà. Et c'est des gens qui ont dû se... Ma mère et mon père bossaient comme des tordus pour pouvoir acquérir un semblant de bien. Et ma mère y est arrivée, mais je ne voudrais pas vivre sa vie. Et je la remercie de m'avoir permis justement d'être cette... Elle a dû bosser à 14 ans. Moi, j'ai pu aller au lycée et j'aurais pu continuer à faire mes études si je n'avais pas choisi d'être rebelle.
Rocker.
Voilà. Et donc voilà. C'est... J'ai perdu un peu le fil.
Non, on parlait justement du fait de...
Oui, les mots...
L'inspiration avec
l'inspiration
le temps.
Et un artiste, c'était, ça n'existait pas dans mon milieu, môme. Ça n'existait pas.
C'était une nouveauté, il n'y avait pas d'exemple.
C'était même pas nouveau, c'était un truc qu'on envoyait à la télévision. Les artistes, c'était des chanteurs qui passaient à la télévision. On pensait... un dessinateur de bande dessinée, c'était un dessinateur... Et c'est vrai, c'est ce que m'avait dit ma mère, c'est un dessinateur industriel qui le dimanche fait des petits Mickey. Alors que c'est un métier de ouf, c'est un métier de folie, c'est un métier qui prend ton temps d'être la bande dessinée.
Le talent n'avait pas sa place, c'était plutôt quelque chose de... On voyait l'artiste comme quelque chose de subalterne, en tout cas d'accessoire.
C'était même plus que ça, il fallait surtout pas l'être. Il valait mieux être ingénieur, pharmacien, ce que tu veux, enfin, mais surtout pas artiste, ça n'avait pas de sens. C'était un truc de saltimbanque, on gagnait pas sa vie avec, enfin voilà, c'était un truc... Enfin, quand je me suis lancé là-dedans, ma mère en pleurait presque, mais bon, j'étais majeur, elle pouvait plus rien dire. Et voilà, elle s'est dit, mais il est fou, pourquoi il fait ça, quoi.
Et lorsque tu as... réussi, entre guillemets, lorsque tu as franchi le pas, lorsque tu... je ne sais pas si tes parents ont pu justement voir ce succès, en tout cas te voir réussir, voir avancer, est-ce que ça les a fait changer d'avis?
Bah bien sûr, ouais. Bien sûr, ils s'imaginaient pas ça, quoi. Mmh. Ils s'imaginaient pas ça, bon, il y a eu un certain temps, parce que quand même, mes débuts dans Star Shooter et même mes premiers passages à la télévision, tu as 20 ans, tu fais le zig, tu fais les concerts. Ma mère, quand on a vu la première fois un concert à l'ex-Palais d'Hiver à Lyon, c'est pareil, elle a été effrayée de l'ambiance qu'il y avait, quoi. Le côté rock'n'roll, en plus, c'était l'époque punk où ça y allait, ça remue dans tous les sens, ça hurlait, ça sifflait. Elle pensait qu'on me huait, alors qu'en fait, c'était juste un défouloir, quoi. Donc, elle ne comprenait pas, elle découvrait un monde qu'elle n'imaginait pas une minute. On en est loin aujourd'hui, hein, mais, tu vois, c'est pour te dire, quoi. Et enfin, donc, si tu veux, effectivement, enfant, artiste, ça n'avait pas lieu d'être. Et donc, il y a tout ça. Et c'est ce qui a fait que je suis arrivé là-dedans sans savoir comment ça fonctionne. Mmh. Et j'en ai eu des complexes que j'ai toujours. Par rapport à des personnes et des collègues qui ont eu la chance ou le hasard de naître dans des familles plus ouvertes, simplement une famille d'enseignants ou une famille plus simplement plus aisée aussi, qui permet d'avoir des loisirs plus enrichissants.
Ce que tu es en train de m'exprimer, ça ressemble au syndrome de l'imposteur, c'est un peu ça en fait,
ouais,
avoir la sensation de ne pas être à ta place.
Complètement. Et je connais ce terme, je connais ça, j'en ai bien conscience, et j'ai beau en avoir conscience, ça ne m'empêche pas de le ressentir. Voilà.
Est-ce que, et là je pense que tu vas me voir arriver, mais c'est la transition, avant de faire cette petite respiration musicale, est-ce qu'il y a l'angoisse de la page blanche? Toujours, encore aujourd'hui, même après 30 ans, 40 ans de carrière.
Alors, c'est pas ça, en fait. J'ai pas l'angoisse de la page blanche. Je me suis... Si tu veux, j'ai toujours quelque chose qui me passe en tête. Mm-hmm. Toujours. Alors, c'est pas l'angoisse de la page blanche, c'est l'angoisse de la page que je n'arrive pas à finir. Il y a toujours, deux, trois phrases qui démarquent quelque chose, ou voilà, une idée, ou peu importe si c'est un roman, une chanson, un scénario. Hein, voilà. Je jette un premier jet comme ça. Et après, black. Il peut y avoir un blocage. Et il y a souvent un blocage. C'est rare quand quelque chose sort comme ça, spontanément. Ça arrive 3-4 fois dans une vie d'artiste, enfin dans la mienne. Dans la mienne en tout cas. Et c'est un miracle. Une espèce de sublimation de quelque chose, tu ne comprends pas, tu lis le truc et tu fais comment c'est sorti, d'où ça sort, quoi. En si peu de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et c'est pas naturel pour moi, j'en chie pour aboutir quelque chose qui me satisfasse en général.
Alors ce que je te propose, Ken, c'est qu'on fasse une petite pause, une petite respiration.
Bien volontiers.
Comme ça, tu vas pouvoir même continuer à manger ton assiette végétarienne. Eh bien, d'habitude, je fais découvrir un artiste à mon invité, mais comme... Toi, tu as une actualité, tu as sorti un nouvel album. C'était l'occasion peut-être aussi de faire découvrir un titre que celles ou ceux qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas peuvent découvrir. Je t'ai demandé quel titre tu avais envie de faire découvrir et tu m'as parlé donc de Sur la page blanche.
Oh, je ne l'ai pas vu venir avec l'histoire de la
page
blanche.
C'est incroyable hein, quand même. Ouais. C'est un peu lourdingue. Hein.
Non, mais c'est pas lourdingue parce que justement, on a parlé de la page blanche du créateur. Là, dans la chanson, je parle de la page blanche d'une lettre.
D'une lettre.
Qu'est-ce qu'on peut dire
à quelqu'un
et qu'est-ce qu'on peut ne pas dire?
Eh bien, je te propose qu'on écoute ce titre que toi tu connais bien, qu'on va découvrir ensemble, toi qui écoutes ce podcast. Bien entendu, on se retrouve juste après pour continuer l'épisode 121 des Passeurs de Clés avec Kent. Et on continuera le parcours, on parlera de ton actualité d'aujourd'hui, de ce que tu fais, comment tu fais, puis il y aura deux, trois petites surprises. On y va, c'est parti.
Sur la page blanche, on peut lire tout ce qui ne se dit pas, le venin, les repentirs que l'on garde pour soi, le mot de trop, le poison qui passerait pour une injure, condamné par la raison. Et que la prudence rature. Sur la page blanche se meurent des vérités, des erreurs, des remords, des rancœurs, des confidences qui tanguent sur le bout de la langue et puis replongent dans le silence et le mensonge. Sur la page blanche languissent des amours inavoués, des vies restées en coulisses, des fleurs de jardin secrets, des angoisses indicibles qui craignent le ridicule. des aveux irréversibles, des désirs qui capitulent. Sur la page blanche s'évade, en rêverie nomade, l'esprit dans la panade. Et la pensée s'égare, disparaît des radars et s'aventure dans les mystères de la nature. Sur la page blanche, les idées dansent à la manière fort singulière des particules élémentaires. Sur la page blanche, les idées dansent à la manière singulière des particules élémentaires.
Et voilà, c'est sur la page blanche, le titre de Kent que tu viens de découvrir, bien entendu. Je mettrai le lien, je mettrai pour aller découvrir ce titre, mais aussi les découvrir bien d'autres titres de ce nouvel album de Kent, que je suis très heureux d'avoir dans les passeurs de clés pour le 121e épisode. Alors, On en discutait pendant que le titre passait. Cette page blanche, c'est plutôt une lettre. C'est quelque chose qu'on écrit. C'est qu'est-ce qu'on met sur cette lettre quand on veut écrire à quelqu'un. Comment t'es venue l'idée de l'inspiration de ce titre?
Justement, en cherchant, je ne sais pas si c'est un mot, en ayant envie de parler d'un sujet dans une chanson et en me disant non.
Ah ouais.
Voilà.
T'interdire de parler de ce sujet.
Une espèce d'autocensure, parce que ça peut être trop intime. Ça peut déranger les autres. J'en parlais avec il n'y a pas si longtemps de ça avec Mahu, qui est un musicien percussionniste légendaire en France, puisqu'il a accompagné Jacques Higelin toutes ces dernières années. Il avait accompagné Lavilliers à une époque. C'est un vrai personnage. Et c'est pas qu'un percussionniste, c'est un vrai personnage. Et le dernier album de Jacques Higelin, qui s'intitule 75, c'est un album que j'adore. Vraiment, j'ai découvert un Higelin qui était au sommet, un autre sommet, parce qu'il n'y a pas qu'un sommet dans
bien sûr.
C'est une chaîne de montagnes, Higelin. Et c'était son dernier disque, en fait. Et les chansons qu'il avait écrites, les textes parce que c'est presque, des fois, c'est pas chanté, c'est vraiment. Il part sur un délire, et puis.
Ça peut être parler, crier, pleurer,
et puis on suit, quoi. Et je disais, c'est culotté, quand même. Il y avait des moments presque méchants. J'ai pas pu parler du disque avec lui parce qu'il est décédé entre temps. Et avant de décéder, il avait disparu, malheureusement, il n'a plus toute sa tête. Mais du coup, Mahu, qui l'avait accompagné jusqu'au dernier temps, j'ai parlé avec lui de ça parce qu'il avait réalisé l'album. Et Mahu m'a dit, je savais que Jacques, il avait des cahiers remplis de textes comme ça. Et il ne voulait pas mettre en musique ces choses-là parce qu'il avait peur que son public le prenne mal.
Ah, donc il y avait le souci du retour du public, en tout cas de ce que ça pouvait faire, procurer chez l'autre.
Oui, la mauvaise interprétation, c'est ça. Il y a des choses qu'on a envie de dire et on se dit, mais ça va être pris comment? Alors surtout aujourd'hui, à chaque instant, il se passe pas un moment où on retire une phrase de son contexte et qu'on la balance dans les réseaux sociaux pour, condamner... une personne, quoi, et donc quelle qu'elle soit. Donc, faut comprendre cette méfiance, faut comprendre ça.
Est-ce que c'est quelque chose on parlait de l'inspiration, on parlait de l'écriture, on parlait de la création tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlait aussi de ce siècle, cette nouvelle période smartphonienne, sans parler de ChatGPT, etc. Mais est-ce que justement, tout ce problème du fake, ce problème du de la malcompréhension, c'est quelque chose qui bloque la créativité ou qui peut empêcher à la créativité.
Ça nuit.
Ça nuit.
Ça nuit. Ça, à empêcher, j'en sais rien, mais ça nous oblige à trouver d'autres chemins. Alors c'est assez marrant parce que ça rejoint un peu un sujet, le sujet de la censure. En fait, bon, ça rejoint, voilà, ça rejoint pas qu'un peu, ça rejoint tout court. C'est une censure populaire, c'est une censure de la rue, de la censure du lynchage.
L'autocensure, même quasiment.
L'autocensure, elle vient suite à ça, parce qu'on craint ce qui peut arriver. Voilà. Et donc, dans une société où tout est permis, où tout l'est depuis un certain temps déjà maintenant, le fait d'avoir la liberté de dire ce qu'on veut impose une censure par la masse, le harcèlement.
Pour reprendre une formule connue, trop de liberté tue la liberté, quoi.
Oui, c'est vrai. C'est les gens, je pense que la majorité des gens ne savent pas vivre librement, ne savent pas penser librement aussi. Mm-hmm. Voilà, ça c'est on en a l'exemple type. Et pour avoir... J'ai connu l'époque du Bloc de l'Est,
du
mur de Berlin, l'Union soviétique, les pays comme la Roumanie que j'ai bien connu sous le joug de Ceausescu et de la pensée soviétique et de la censure justement, le fait qu'on ne pouvait pas dire et faire ce qu'on voulait, enfin dire et penser ce qu'on voulait faire. Déjà pas trop le choix. Et c'était marrant, c'est marrant de voir comment les artistes de ces pays se sont débrouillés pour détourner pour la censure. Je pense notamment à tous ces cinéastes tchécoslovaques des années 60, au moment où y a eu on a senti la Tchécoslovaquie qui avait l'espoir de se libérer avec un gouvernement qui était plus ouvert. Mais quand même, il y avait le grand frère soviétique qui était à côté, et donc il y avait une production de films qui s'est faite avec des espèces de messages subliminaux. Voilà. Et donc, à travers une fable ou une comédie rigolote, raconter des choses qui étaient graves. Et c'est même Jiří Menzel qui dit ça. Après la chute du mur de Berlin, quand on l'avait interviewé sur son œuvre, et œuvre qui avait été remarquée à Cannes à cette époque et tout ça, quoi, et qui avait eu le courage de dire, mais je crois que sans la censure, mes films n'auraient pas été aussi bons, parce qu'il a fallu que je trouve une issue, voilà, quoi, à ça, quoi. Et c'est assez troublant quand même comme truc. En fait, je crois qu'il faut quelque part une autorité à transgresser. Quand il n'y a plus d'autorité à transgresser, on est dans n'importe quoi. Donc voilà, et je prends pas, je dis pas qu'il faut imposer le totalitarisme. Il y a un monde entre les deux quand même, hein. Qu'on ne se méprenne pas sur ce que je dis. Je dis juste qu'un encadrement assez strict oblige à aller chercher loin.
Ça peut être un mal pour un bien, choses. En tous les cas.
Au lieu de dire fuck off, on cherche autre chose, et là, on est dans la poésie.
D'ailleurs, c'est drôle parce que ça me fait penser, alors peut-être que tu me contrediras, mais c'était ce que faisait aussi La Fontaine, à l'époque, quand il faisait ces fameuses fables de La Fontaine, où il prenait des animaux et racontait des petites histoires, mais en fait, au final, il se moquait de la société. Et ça a toujours été de tous les temps, en fait.
De tout temps, mais bien sûr, de tout temps, ça a toujours été ça. Et voilà, quoi. La transgression par le... Je reviens à ce mot que j'ai lâché juste il y a deux minutes, la poésie, quoi. La poésie, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on ne dit pas les choses en face. On les dit autrement, on les dit différemment. Soit avec d'autres mots quand on veut dire les choses en face, soit... Le langage direct n'a rien à voir avec l'invention artistique. Ça n'a rien à voir, c'est... voilà.
Est-ce que ça veut dire que souvent on entend que la poésie est dangereuse, ou alors qu'on n'y prête plus attention, on ne veut plus lui donner sa place? Est-ce que ça peut être à cause de ça? Parce que justement, elle peut permettre de faire passer des choses.
Non, écoute, là, aujourd'hui, en France, la poésie, elle fait ce qu'elle veut. Mmh. Elle fait même des conneries. Il y a beaucoup de gens qui se déclarent poètes. Il y a des éditeurs qui éditent des choses qui sont franchement inintéressantes, du fait qu'on peut dire ce qu'on veut. Mmh. Donc, à partir du moment où tu décides d'écrire un texte sans ponctuation, je sais pas ce qui te passe par la tête, tu peux considérer que c'est de la poésie, ça en est sûrement, mais de là à penser que tu as du talent, il y a une marge. Voilà, c'est là aussi où l'autocensure est importante. Je crois qu'il faut écrire quelque chose, et c'est ce qui fait que je vais avoir un jus de pomme au goût de guêpe.
C'est ça,
bon.
Exactement.
Et on est trop indulgent aujourd'hui, franchement. Franchement, aussi bien les professionnels, éditeurs, ce qu'on veut, labels, des trucs comme ça, qui ont tellement peur de passer à côté du génie qu'ils sont prêts à publier n'importe quoi, que l'auto-indulgence avec soi-même. Voilà, je trouve que...
Plus de rigueur, en fait.
Ah ouais, moi je trouve que c'est quelque chose qui manque de rigueur. Et encore une fois, ne confondons pas rigueur et rigorisme, enfin voilà.
Mmh, quoi. Bien sûr.
Ça demande... C'est comme discipline. Discipline, c'est aussi une activité. Voilà, il faut savoir se cadrer, il faut savoir cadrer sa pensée, il faut savoir chercher autre chose que le commun, mm-hmm. tout simplement. Je parle encore qu'au niveau artistique, hein, on est d'accord. Hein.
Voilà, savoir se réinventer, savoir se sortir de sa zone de confort, savoir aussi, comme tu disais, par curiosité, aller voir ailleurs, oser aller voir ailleurs.
Et puis, et puis avoir le courage de se dire merde, c'est pas bon.
Oui, s'auto-juger. Bien sûr, oui.
Regardez, quoi. T'as décidé que tu fais de la poésie, ok, va aussi en lire et compare ce qu'il y a sur ta page et avec ce qu'il y a dans tel ou tel bouquin de tel ou tel auteur. Voilà, c'est.
Est-ce que la comparaison tout au long de sa carrière, qui continue et qui va continuer, c'est quelque chose qui a été aussi un outil pour toi, une manière de. Est-ce qu'il y a eu cette notion de comparaison, d'aller écouter ce que les autres faisaient?
Tout le temps.
De t'inspirer de ce que tel ou un tel faisait.
Mais,
je parlais d'Igelin tout à l'heure.
Mais tout le temps. Mais les artistes sont toujours inspirés des autres. C'est depuis toujours. Delacroix s'est inspiré des autres. Il a inspiré d'autres peintres, etc. Picasso, on peut voir des expos de Picasso qui recopient des tableaux de Goya à sa manière ou carrément pareil parce qu'il veut comprendre. Comment a été fait ce tableau?
Et toi, justement, quelles ont été tes inspirations?
Oh, elles sont multiples.
Elles sont multiples.
Elles sont multiples. Elles changent. Elles sont évolutives aussi, mm-hmm. quoi.
On va dire les grandes inspirations, celles qui t'ont vraiment bouleversé.
Tu sais, étonnamment, l'artiste qui m'a vraiment plu, il y en a 36 ans, on va en prendre un David Bowie par exemple.
D'accord.
Adolescent, je découvre David Bowie et je me prends une claque. Parce que c'était pas seulement de la musique, c'était aussi toute une façon d'être. Une façon d'aborder la musique comme un art, le rock comme un art et tout ça, qui était quelque chose de. Alors que pour moi c'était un divertissement. Et lui il en a fait autre chose, quoi. Donc j'ai suivi, puis je l'ai perdu de vue parce que je me suis intéressé à d'autres choses, à ma vie, notamment de musicien.
Artiste, ouais.
Et puis j'ai retrouvé plus tard, et j'ai suivi sa carrière et de bout en bout. Et étonnamment, cette personne-là, dont je connais l'œuvre par cœur, est insoupçonnable dans comment t'as dit déjà ?
Tes inspirations.
Mes inspirations, merci, voilà. Je pense pas qu'on m'écoute mes disques, qu'on puisse deviner ça, quoi. Et je pense qu'il m'a pas inspiré à la surface.
Oui, c'est profondément.
C'est profond.
C'est une imprégnation.
C'est
plutôt,
une façon d'être, une façon de se comporter d'en faire qu'à sa tête. Ça, là-dessus, il m'a influencé, quoi. Après, musicalement, des fois, j'ai quelque chose qui me passe. Je sais que dans les années 90, quand il y a eu cette explosion en France de l'électro, je me suis pris ça en pleine poire. J'ai adoré ce qui se passait, quoi. Et pourtant, à l'époque, je faisais vraiment la chanson. J'étais dans le renouveau de la chanson française avec accordéon et tout ça. Mm-hmm. Je voulais retrouver les sources de la chanson. J'avais abandonné le rock pour faire ça, vraiment, quoi. J'étais à fond là-dedans. J'avais un public qui aimait ça. Et je me suis trouvé. Et comme j'étais curieux du reste, je passais pas mon temps à écouter de l'accordéon. Hein. J'écoutais toujours ce qui se passait autour et j'ai eu ce truc-là. J'ai dit, putain, c'est formidable ce qui se passe là. C'est plein de vie, et c'est nouveau et tout. Et j'ai fait un disque dans cette mouvance-là, quoi. Et qui était un disque bâtard, parce que déjà, c'était l'électro à l'époque, c'était pas des chansons, c'était que de la musique, avec un certain BPM bien précis. Et moi, j'en ai fait des chansons. Donc, évidemment, on a crié au sacrilège. Du côté de la chanson, qui ne comprenait pas pourquoi j'avais cette démarche-là. Et du côté de l'électro, qui disait, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici, quoi. Mais c'est pas grave, je m'en fous.
C'est une découverte, c'est une curiosité. Tu vas t'es allé explorer des
choses. Ça m'a inspiré. D'un coup, j'ai écrit une douzaine de chansons en allant voir des concerts. Je prenais les tracts qu'il y avait, que je trouvais à l'entrée, comme ça, et au dos des tracts, pendant que le concert se passait, j'écrivais ce qui me passait par
Incroyable.
La tête. Et puis un jour, j'ai pris deux, trois musiciens, des copains à moi, j'ai dit, j'ai ça, j'ai envie de faire un disque comme ça, et on est rentré en studio, on a fait le disque comme ça, et c'est en une semaine, on a créé tout un album.
Là, pour le coup, ça a été rapide. Tout à l'heure, tu disais,
oui,
il y a la rature, là, c'est quelque chose de fulgurant.
Voilà, c'est une fulgurance, mais encore une fois, il n'y a pas 36 dans une vie, enfin, dans la mienne en tout cas.
Alors,
ça, c'en est une.
On parlait là des personnes qui t'ont marqué, mais tu as aussi marqué. La vie ou le parcours de certaines personnes. Alors, moi, j'ai pour habitude, quand je vais à la rencontre de mes passeurs de clés, de venir avec des cadeaux. C'est normal.
Bah,
on accepte. Moi, je viens, j'amène des cadeaux.
D'accord.
C'est logique. Quand on va manger chez quelqu'un, on amène une bouteille, quelque chose. Bon. Ces cadeaux, généralement, je les appelle des questions de l'invité surprise. Alors, personne qui te connaît, ce que tu connais ou pas, qui avait envie de te poser une question.
D'accord.
Je suis venu avec trois cadeaux.
D'accord.
Trois questions. Alors, la coutume est de te demander, premièrement, est-ce que tu es d'accord pour écouter ces questions, et deuxièmement, d'y répondre si tu peux y répondre. Voilà. Comme je te dis tout à l'heure, moi, j'impose rien dans ce podcast. Voilà.
Bah, je ne m'interdis pas les cadeaux, donc allons-y.
Allez, c'est parti, on écoute la première question que tu connais.
Salut Kent, c'est Christian. Alors voici la question que j'aimerais te poser, qui m'a été aussi soufflée par Sophie, ma compagne, que tu connais. De quoi es-tu le plus fier ? Alors tu peux répondre à cette question de façon un peu bateau, mais tu peux aussi y mettre toutes tes tripes, parce qu'on fait tous des belles choses et on s'en rend pas forcément compte.
Alors voilà, il s'appelle Christian, alors il faut rappeler que c'est le chanteur des Chic Tips, avec qui tu as... Il y a un clip qui a été mis en ligne il y a avant-hier, quelques jours. Morceau incroyablement génial, en tout cas moi je trouve le morceau génial, avec un groupe tout aussi génial.
Ouais.
J'ai eu la sensation que tu prenais vraiment un grand plaisir de travailler avec eux. Alors voilà, la question de Christian, qui est le chanteur de ce groupe, quelle est la chose dont tu es le plus fier ?
Oh, j'en sais rien.
En toute modestie, bien entendu.
Ouais, c'est ça, voilà. Non, écoute, c'est compliqué ça, je saurais pas quoi dire. Comme on est en train de parler de musique et tout, donc je suis orienté là-dessus, mais c'est pas dans ma vie, c'est pas... Je sais pas ce que je suis plus fier...
Est-ce que, par exemple, tu es fier de justement, on parle de longévité souvent, mais c'était le texte d'intro, de durée, mais est-ce que c'est plutôt le fait d'avoir toujours été là où tu avais envie d'aller, par exemple, cette non pas une droiture, mais cette rigueur, justement, de jamais te dévier.
Bah, écoute, alors, disons que je te suis là-dessus, effectivement, être fier, c'est que je n'ai pas...
Pas fourvoyé, quoi.
Je me suis pas fourvoyé, c'est ça. J'ai pu faire des concessions, mais je n'ai pas touché à la compromission. Voilà. Donc ça m'a emmené parfois dans des impasses dont il m'arrivait de souffrir, mais je peux garder la tête haute par rapport à ça. C'est que je n'ai fait que ce que j'avais envie de faire. Voilà. C'est que ça.
Et c'est quelque chose qui t'a toujours, j'allais dire, permis d'avancer, d'aller de l'avant, de faire des belles rencontres. Tu lises aussi des fois, peut-être, j'appelle ça des expériences,
ouais.
Pas des erreurs, mais on en tire toujours quelque chose de ces expériences.
Écoute, c'est pas toujours évident. Hein. Je me souviens d'un moment dans ma carrière où j'avais la recette et où la maison de disque se frottait les mains et mon banquier était content. Et
la martingale.
et je m'en suis détourné parce que j'avais en tête autre chose.
D'accord.
Je m'en suis peut-être détourné trop vite. Voilà. Si j'ai un regret dans ma vie musicale,
C'est peut-être ça, de me dire, tu aurais pu ronger ton frein, repartir un coup, sur un coup, et décrocher un jackpot qui m'aurait permis d'être plus à l'aise, de me donner plus de liberté pour la suite aussi.
Alors on est passé de ce que tu es le plus fier à ton regret.
Bah oui, parce que ça va avec.
Bien sûr.
Ça va avec. À partir du moment où on est sans concession, il y a un moment donné où cette intransigeance peut nous mener dans un cul-de-sac et nous faire une connerie. Des fois, ce que je vais prendre pour de la compromission, c'est juste une adaptation à un moment donné, de quelque chose, et qui va pouvoir peut-être pas me satisfaire, mais satisfaire beaucoup, tellement de gens autour de moi que ça va changer leur vie, la mienne et la suite. Voilà. Oui, j'ai ce sentiment-là, à un moment donné, d'avoir peut-être fait une connerie.
On parle pas d'égoïsme, là, hein ? C'est-à-dire de penser à toi sans penser aux autres. Enfin, ça pourrait ressembler à ça. Ce regret d'avoir été trop...
Ah non. L'égoïsme, c'est de tirer profit pour soi.
Ah, d'accord.
Là, c'est le contraire. Mmh. Je ne tirais pas profit pour moi. J'ai cassé le moule pour aller voir ailleurs. Mmh. Donc, ce n'est pas tirer profit. J'ai tiré profit d'aucune...
Tu as toujours écouté ce que tu avais envie de faire.
Ah, ouais. L'égoïsme, c'est quand on... C'est quand on ne veut pas
partager.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours partagé. Il y a juste à ce moment-là où je me suis posé la question, est-ce que c'est raccord avec mes idées ? Et peut-être que j'en faisais une montagne alors que ce n'était pas si important que ça. Voilà, c'est tout. C'était juste de l'impatience de ma part. J'ai peut-être été trop impatient. De repartir en tournée avec un disque qui marchait, j'ai dit non, je préfère en faire un nouveau. Donc, au fond de moi, je pensais que le suivant allait marcher aussi. Hein. Soyons bien d'accord. Quoi. Je suis pas un artiste maudit qui se flagelle et qui se dit ah, le succès est là, je le fuis. C'est pas vrai. On croit. Beaucoup de gens, même des journalistes m'ont posé la question de me dire est-ce que vous n'avez pas voulu fuir le succès, c'est pas vrai.
Et ce soir, tout à l'heure, tu parlais de fuite. Hein. Ouais. Le voyage pour te fuir. C'est vrai que on pourrait penser. Mais non, c'est simplement des convictions.
Ouais, c'est des convictions. Voilà. Écoute, j'ai rien à rajouter. C'était quoi ? C'est être fier, hein, c'est ça
La chose dont tu es le plus fier.
La chose dont je suis le plus fier. Bah, écoute, je crois que j'ai bien mené ma vie. Je crois que. Voilà, j'ai un fils que j'aime beaucoup. Il me le rend bien. C'est
la chose dont tu peux être le plus fier au final.
Parce que c'est ce qui restera.
La transmission.
Voilà, c'est tout.
Deuxième cadeau, deuxième question de l'invité surprise.
Ouais.
Alors lui, tu ne le connais pas, mais il connaît quelqu'un que tu connais, ça devient compliqué.
Ouais.
Mais en fait, c'est simple. On écoute ?
Fils de ma concierge.
Cher Kent, merci pour toute votre œuvre. Je suis lyonnais, né en 77, donc au début de Star Shooter. Vos chansons, vos livres, que ce soit vos romans ou vos BD, ont accompagné toute ma vie. L'enfance, l'entrée dans l'âge adulte, la vie d'adulte aujourd'hui, vous apportez énormément de poésie, de bonheur aux gens qui vous suivent et qui vous aiment. Merci pour tout ça. Vous avez invité en tournée et tourné dans un clip de mon ami Frédéric Bobin et... Je voudrais que vous nous en disiez quelques mots. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qui anime votre compagnonnage avec Fred ? Enfin, encore merci pour tout, Kent. Vous êtes un type formidable.
Voilà, on va pas cracher dessus.
Ah bah écoute...
ça fait plaisir.
Ma modestie en prend un coup, mais...
Oui, donc, on va dire... Il parle de compagnonnage, cette amitié, en tout cas plus que juste simplement que de l'art. Mm-hmm. Tu le disais tout à l'heure, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu... fais quelque chose avec quelqu'un, tu as besoin que ça se passe bien, que ce soit pas simplement que professionnel. Cette collaboration avec Fred Bobin, Frédéric Bobin, lyonnais, artiste lyonnais, comment la définir, comment la décrire ?
Bon, alors d'abord, c'est une collaboration qui vient après quelques années où on a appris à se connaître. Ce qui est intéressant avec Bobin, et c'est les bonnes surprises de la vie, c'est des chanteurs, j'en rencontre tout le temps. Et puis un jour, on se retrouve à la fin d'un de mes concerts avec Fred, qu'on me présente, et puis avec qui je vais boire un coup, et on passe une grande partie de la nuit à parler. Ça, c'était pas prévu. Voilà. Et donc, du coup, ben, on s'échange des numéros de téléphone et après, on se revoit et on passe des heures et des jours à se parler, à se raconter nos goûts, à se raconter... Voilà, et on devient amis. Parce que c'est une belle personne, Fred. C'est une vraie belle personne et j'aime la manière dont il... en dehors de notre amitié, j'aime la manière dont il dirige sa carrière. C'est aussi quelqu'un quelque part sans concession à sa manière. Et cette simplicité qu'il a de faire des disques et de faire des concerts, c'est un vrai troubadour. C'est un vrai troubadour dans le beau sens du terme. Ben voilà, après ça, quand on en a ce stade-là entre gens, entre musiciens, la première idée qui nous vient en tête, c'est de faire quelque chose ensemble.
Bien sûr.
Voilà. Donc il a été le premier à me tendre la perche, à me proposer un duo. S'il ne l'avait pas fait, c'est certain que j'aurais proposé un duo dans le disque que j'allais faire ensuite.
Okay.
Voilà, c'est comme ça.
Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une alchimie.
Oui, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme quand tu t'entends bien avec quelqu'un. Bon, là, il se trouve qu'on est musicien, donc du coup, on peut faire quelque chose ensemble, on fait de la musique ensemble. Ça m'est arrivé la même chose il y a 3-4 ans avec Alice Animal, qui m'accompagne sur scène. Je l'ai découvert, j'ai adoré ce qu'elle faisait. Et en parlant avec elle, on s'est trouvé plein de... J'allais dire des points communs, mais c'est même... Oui, il y a ça, mais il y a juste une entente.
Humaine,
spontanée, qui fait que bon, oui, allez, allons-y, faisons quelque chose ensemble. C'est bien, on peut faire quelque chose ensemble, parce qu'il y a des tas de gens on va croiser quelqu'un avec qui on s'entend bien, et puis bah, il fait tel métier, toi t'en fais un tel autre, et puis qu'est-ce que tu fais ensemble? Bah, tu joues aux boules, tu fais du vélo.
Oui, c'est un peu plus compliqué.
Tu te prêtes des livres, des choses comme ça, quoi, tu vois.
Tu peux discuter,
mais bien sûr, mais il faut en plus. Moi, c'est vachement important de pouvoir parler avec quelqu'un avec qui tu es en confiance. C'est tellement bon, quoi. Enfin, je veux dire, toi, à un moment donné, tu crées une amitié, mais ça s'arrête là. Donc, nous, en créant une amitié à deux, on crée aussi de la musique.
Une dynamique derrière.
Voilà, oui. Ah, j'aime pas le mot dynamique parce que c'est pas la vie, c'est pas une recherche de dynamique, c'est comme
le
ça,
partage,
ça se passe. Ça se passe, ça s'est passé, c'est tout. Je peux pas dire mieux, je suis observateur, ça s'est passé, voilà. Et qu'il en restera, mais voilà. Quoi. Et je suis pas en permanence à la recherche de ça, loin de là. J'ai tendance même à J'aime pas être le côté le milieu, tu vois, fréquenter que des gens du milieu. J'aime pas ça. Voilà. Si ça se fait, c'est parce que voilà, il y a quelque chose.
L'entre-soi, quoi.
Ouais,
cet entre-soi qui des fois peut être un peu malaisant.
Ouais, c'est malaisant, puis ça n'ouvre pas sur l'extérieur. Mmh. Voilà. On est entre soi, on parle de musique, et puis de bonheur et des malheurs de chacun, dans le milieu musical, merde. Et puis après, on va faire des chansons qui parlent du monde. Ben non, allons voir le monde, il faut le connaître, c'est ça. Mais c'est une impasse, hein, je dis souvent le mot impasse, mais c'est vrai. C'est dans ce métier-là, à un moment donné, quand tu marches bien, quand tu es à fond dedans, d'abord, ça devient compliqué de vivre dehors, dans la rue, parce qu'on te reconnaît. Donc du coup, ça, tu as tendance à raser les murs ou bien...
C'est un peu tronqué comme vision, bien sûr.
À vivre ailleurs pour qu'on te reconnaisse. Donc du coup, tu te coupes de la vie de tous les jours. Et puis, tu te coupes de la vie de tous les jours par le succès, parce que tu as de l'argent, donc tu vis autrement. Mmh. Et tu es sans arrêt en tournée. Donc, qu'est-ce qui te reste à vivre après ça? Si tu ne peux pas te promener dans la rue, si tu habites une tour d'ivoire, si, quand tu te sors de la tour d'ivoire, tu es en tournée...
Tu ne vas pas aller boire un café tranquille.
Voilà, exactement. Ouais. Ou alors tu vas boire un café tranquille dans le 16e arrondissement à Paris ou dans les trucs en Floride ou à Los Angeles. Et, ça n'a rien à voir avec la vraie vie, quoi. Et bon, après, la vraie vie, il n'y a pas que ça comme sujet de chanson, bien entendu. Mais c'est aussi important pour comprendre le monde dans lequel tu vis et voire même pour apprécier le fait que tu aies du succès, que tu es coupé de ce monde-là. C'est aussi parce que cette rue-là t'aime au point que tu... Elle te rejette sans le vouloir. Quoi. C'est quand même fou. Enfin, voilà, bon... mais on peut aussi... comment zigzaguer avec ça. Encore une fois, le succès, c'est aussi...
On en fait ce qu'on veut.
On en fait ce qu'on veut. Il y a un comportement qui va avec. Hein.
Bien sûr.
Il y a un comportement qui va avec. Franchement, à une époque où ça marchait bien pour moi, ça ne m'a jamais empêché de prendre le métro. Je me suis toujours refusé de prendre le taxi. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que ça roule moins vite que le métro. Donc, je ne vois pas l'intérêt, dans Paris du moins. Et puis, tu es dans le métro. Et quand les gens qui te reconnaissent dans le métro, si tu ne joues pas la star...
Bien sûr.
Si tu ne te la pètes pas.
Mmh. C'est accessible, ça devient
alors,
amical.
Oui, c'est ça. Soit on pense pas que c'est toi.
Oui.
Soit la personne se dit, oh, je vais pas l'emmerder.
Voilà, je vais pas oser.
Ouais. Ouais. Alors ça va être un petit clin d'œil en sortant de la rame.
Ou ça va être
un
j'aime
bonjour.
Beaucoup ce que vous faites.
Voilà, exactement. Ouais. Et ça a toujours été ça, et c'est plutôt sympathique. Ouais. Ça, c'est très sympathique.
Alors, tu parlais du troubadour,
ouais.
Ce fameux troubadour. Donc j'ai un troisième
ouais.
question d'invité surprise. Et justement, c'est le troubadour.
Ah.
On y va ?
Ouais, on y va, ouais.
Hello Kent. Alors, la question du jour. La première fois où tu m'as fait écouter ta chanson Scherzando Express, qui figure sur ton nouvel album, eh bien, je me souviens que tu m'avais dit que c'était une chanson que tu avais commencé à écrire il y a longtemps. Et que tu avais mis du temps à terminer. Et ma question, c'était la suivante. À quel moment tu estimes qu'une chanson est finie ? Quels sont tes critères pour dire qu'une chanson est terminée ? Voilà ma question, cher Kent. Je t'embrasse, j'espère que tu vas bien. À très très vite, ciao.
Voilà cette question de la finalité.
Ouais,
quand
ouais.
est-ce que, alors tu en parlais déjà tout à l'heure, de raturer, quand est-ce que Kent estime que point final, c'est fini.
C'est la deadline.
C'est ça.
C'est de la deadline qui,
ah oui.
qui fait que la chanson est terminée, c'est tout. À un moment donné, je suis satisfait de la chanson. Mm-hmm. Et donc, je me dis, ben tiens, on peut l'enregistrer. Mais alors, avant qu'on l'enregistre, des fois, il se passe quelques semaines, quelques mois, bien sûr, parce qu'il faut réserver, il faut ceci, il faut cela. Quoi. Et pendant ce laps de temps, la chanson, elle continue. Moi, je continue à l'améliorer dans ma tête. Et une fois enregistré, c'est comme quand on a pris une photo. Quoi. C'est un instantané de la chanson, à tel moment. Et après, quand je me retrouve à chanter sur scène, il y a certaines chansons où je me dis, mais j'aurais pas dû chanter ça, j'aurais dû mettre tel mot, je pourrais changer telle ou telle note. Alors ça m'arrive, ça. De le faire.
Il y a un peu de perfectionnisme quand même.
C'est pas du. Oui, non, c'est ouais. oui, on va dire que c'est du perfectionnisme. Voilà. Mais oui, c'est du perfectionnisme, mais c'est un perfectionnisme subjectif.
Ouais.
Parce qu'il n'y a que moi qui.
Bien sûr.
Qui décide. Voilà, que c'est. Quelqu'un d'autre va me dire bah non, elle est très bien ta chanson. Ou bien elle va me dire elle est toute pourrie. C'est moi qui décide. Donc la perfection, c'est ce que j'en attends.
Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut devenir lancinant ? Qui peut devenir. Problématique, c'est-à-dire que à chaque fois, forcément, on peut toujours améliorer, on peut toujours aller vers l'excellence. Puis à un moment donné, il faut savoir dire bon, ok, c'est bon, stop, j'arrête.
Bah, d'où l'intérêt, effectivement, de la publication. Ouais. La publication d'un dessin, la publication d'une chanson, voilà.
Il y a une deadline.
Il y a une deadline, on arrête la chanson là, quitte à la renier après, quitte à changer quelques détails quand on pense que voilà, on peut les changer, en live en tout cas. Ou la réenregistrer si vraiment ça devient crucial. Et puis voilà, quoi. Mais après, il y a des chansons qui sont, là, dans le cadre de Scherzando Express, quand je l'ai faite à l'époque, ça remonte à 20 ans.
Donc, qui est sur ton dernier album. Hein.
Ouais. La première mouture, elle date de 20 ans et j'en étais pas satisfait. Effectivement, il y avait des mots qui me gênaient, des parties mélodiques qui me gênaient, il y avait des trucs. Et surtout, ce qui m'a gêné, c'est que je me suis dit, j'ai pas l'âge pour la chanter encore.
Ok, d'accord. Voilà.
C'est une chanson de préscience, on va dire. Je pouvais pas la chanter à 40 ans.
Ouais,
c'était trop tôt. Par rapport à ce que je disais, c'était trop tôt.
Ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose, ça veut dire que y a une auto-estimation là pour le coup.
Oui.
Tu parlais tout à l'heure de s'auto-gérer, de s'auto-juger. Il y a eu cette maturité de se dire non, ça là je laisse, j'attends,
ouais.
Puis plus tard.
Oui, oui.
Patience, en fait.
C'est une chanson qui est conclusive, une chanson de bilan. Donc à 40 ans, évidemment on peut faire un bilan à 40 ans. J'en ai fait un à 25 ans, à la fin de Star Shooter, j'ai fait un bilan de ma vie à 25 ans. Maintenant ça me fait rire, 25 ans, bilan de sa vie, au secours quoi. C'est tellement dérisoire.
Mais, en tout cas, bilan d'une partie, de vie.
Mais à cette époque-là, je ne parlais pas du bilan d'une partie de vie.
Ah oui, c'est carrément le bilan de ta vie.
Bah, c'est le bilan de ma vie, je n'avais vécu que 25 ans, je ne savais pas ce qui m'attendait dans les années qui allaient venir, le lendemain même simplement. Quoi. Je ne soupçonnais pas à l'époque qu'à 66 ans, je serais encore chanteur sur scène. C'était même pas de la science-fiction, je n'y pensais pas. Je n'y pensais pas. Donc c'est pour ça que c'est des fois important de décaler des chansons. Mais la chanson sur la page blanche, elle a connu une première version que j'ai enregistrée pour l'album d'Avance Cazzando.
D'accord.
J'ai une version qui existe de cette chanson enregistrée en studio. Et là, pour le coup, c'est musicalement, ça ne m'allait pas. Je n'ai pas changé les paroles, sauf un mot, sauf un seul mot. Et... mais voilà, musicalement ça ne m'allait pas, donc bah, elle a attendu son heure. Ça peut être 3 ans, 4 ans, puis voilà, puis c'est arrivé, puis c'est tout.
Alors, je me suis un peu trompé, pas complètement, mais je t'avais dit que j'avais 3 cadeaux.
Ouais.
En fait, j'en ai un quatrième.
Ah d'accord.
Et qui est arrivé le quand bonus. Je t'attendais,
ouais.
Tu vois. Donc, ça va jusque-là. Il y a quelqu'un qui voulait te poser une question et qui m'a envoyé sa question. Alors, je vais te la faire écouter comme ça,
d'accord.
Ici, par le micro. Et pareil, si tu peux y répondre, c'est top.
Bonjour Kent, je suis Ghislain N. Merci de te prêter au jeu des questions. Voici la mienne. Je voulais savoir quel est le secret, comment on fait pour mener comme ça sur plus de 30 ans, je crois, une œuvre artistique, une carrière, comme on dit aujourd'hui, aussi variée, littérature, musique, dessin, avec, j'imagine, beaucoup de variations de rythme aussi. Comment on fait pour rester inspiré, pour continuer à avoir envie, pour rester illuminé?
Voilà, comment est-ce qu'on reste illuminé? Alors, ça s'appelle Ghislain N,
ouais.
Artiste lyonnais. Plutôt dans le slam, dans l'écriture,
ouais.
Très, très belle écriture, une occasion de le recevoir une fois et d'écouter ses titres, quelqu'un qui m'a fait penser, j'ai eu la sensation de rencontrer MC Solar il y a 30 ans,
ouais.
Voilà. Toujours cette question de l'inspiration, comment est-ce qu'on reste illuminé?
Ben, ça rejoint le tout début de notre entretien,
ouais.
C'est la curiosité,
ouais.
C'est la curiosité qui fait, parce que tant qu'on est curieux, ça veut dire qu'on est... On lutte contre sa lassitude. Enfin, on lutte. D'abord, parfois, on est curieux, on ne sait même pas qu'on lutte. On est juste curieux, c'est tout, quoi. Mais le premier ennemi de la vie qui passe, c'est la lassitude.
Mm-hmm.
C'est... en fait, plus l'âge avance, plus les premières fois sont loin. Donc, on s'approche des dernières fois. Et c'est déjà... là, ça devient lourd à porter. Mais aussi, on a vécu des choses et qui m'ont une fois, deux fois, et si elles se reproduisent, c'est chiant, parce qu'elles n'ont plus la même saveur que la première fois. On pense savoir tout de la vie, alors que la vie continue, même si c'est vrai qu'il y a des choses qui ne changent pas. Et ça, c'est un peu déroutant.
Mmh.
C'est vrai que, humainement parlant, l'évolution est lente, est très lente, voilà quoi. Et donc, effectivement, on se retrouve en face de personnes souvent plus jeunes, tout feu tout flamme pour tel ou tel sujet, et on se dit, je lui dis rien.
Ça va redescendre.
Je lui dis rien. Ça te passera avant que ça me reprenne. C'est une expression qui me fait rire toujours. Mais bon, il faut laisser faire parce que chacun a sa vie, quoi. Donc, il y a ça. Et ça, c'est il faut lutter contre ça, quoi. Parce que si on ne trouve pas son compte dans la vie de tous les jours et dans le quotidien qui est quand même...
Lancinant, ouais.
Lancinant, tu as raison. Et lancinant, pas seulement sur une vie, mais sur un siècle. Parce que, encore une fois...
Appétitif, ça décide.
La vie est longue et pas que la vie humaine, mais l'histoire est longue et ne nous apprend pas grand-chose. Mais pour le coup... On peut à ce moment-là être curieux de choses qu'on ne connaît pas. Un autre métier,
un autre pays.
Un autre pays, niveau. Exactement. Et s'intéresser, par exemple, on peut aimer, je ne sais pas, on a aimé le cinéma américain toute sa vie, et puis on dit, oh, c'est toujours la même chose, ben, on s'intéresse au cinéma polonais.
Ou coréen, oui, bien sûr, je vois bien.
Voilà.
Mais,
tu vois, voilà, ces choses-là, ces ouvertures-là. Qui, et bah, on peut tomber à plat, comme on peut tomber sur le cul. Et ça, déjà, c'est une motivation. Et puis, ça remet en route les neurones. Quoi. Enfin, ça entretient, c'est même pas que ça remet, mais c'est un entretien des neurones permanents.
En tous les cas, on a cette liberté, on peut le faire. On parlait tout à l'heure de...
J'irais même plus, on doit le faire.
Ouais.
On doit le faire de cette curiosité d'apprentissage, d'apprendre des choses. Je crois que l'audace qu'on a quand on est jeune, c'est l'ignorance. C'est pas que l'innocence, c'est l'ignorance. C'est d'avoir l'impression que ça s'est jamais fait avant nous, que ce qu'on vit, ça s'est jamais fait. D'accord. Donc c'est pas, il y a
une sorte de candeur, ouais.
Une candeur et une ignorance. J'aurais jamais écrit mes premières chansons si j'avais été un érudit en musique. En rock ou quoi que ce soit, parce que je me serais dit, mais tout a été dit, tout a été fait.
Ouais.
Voilà, c'est tout. Et c'est ce qui condamne souvent les musiciens classiques que j'ai pu connaître, qui ont commencé à faire de la musique, mais par la musique classique, et qui n'ont jamais osé composer, parce que dès l'enfance, ils se sont trouvés confrontés à Beethoven, Mozart,
ouais,
Ligeti. Et là, tu te dis, effectivement, qu'est-ce que je peux faire mieux ? C'est pas possible.
Au final, l'ignorance est salvatrice.
Absolument, absolument. Mais alors, c'est salvatrice dans la création artistique.
Bien sûr.
L'ignorance dans la vie de tous les jours peut être aussi destructrice et dangereuse, évidemment.
Alors, ce que je te propose, Kent, on arrive presque à la fin de ce podcast.
Attends, mais j'ai l'impression qu'on a fait deux fois le podcast, non ?
Non, on l'a fait qu'une seule fois. Ça fait presque une heure et demie qu'on est ensemble, mais
ouais.
J'ai un petit questionnaire qui va nous permettre gentiment de nous diriger vers la fin de ce podcast. Je rappelle que je suis venu chercher trois clés quand même, trois clés de vie. Ce questionnaire est très simple. Si tu es Pluto, alors, pas réfléchir, répondre rapidement.
Tu t'es arrêté, t'as dit si tu es Pluto, j'ai tout de suite pensé à
Mickey.
À Mickey.
Voilà, celle-là, d'habitude, c'est moi qui l'a fait, mais voilà, très bien. Tu es Pluto, ça ou ça, toujours avec deux choix. Et donc, en fait, l'idée, c'est de répondre le plus rapidement possible. Tu verras, les questions sont simples.
Oh là là, mon Dieu, je te l'ai dit, hein,
oui,
je suis le rapide, c'est pas mon fort.
Tu es plutôt café ou thé ?
Ah, thé.
Ah bah, tu vois, voilà. Tu es plutôt sucré ou salé ?
Salé, maintenant.
Tu es plutôt matin ou soir ?
Matin, maintenant.
Tu es plutôt bonjour ou au revoir ?
Bonjour.
Tu es plutôt famille ou ami ?
Ami, parce que j'ai toujours considéré que mes amis étaient une famille, vu que je suis fils unique.
Tu es plutôt s'il te plaît ou merci ?
S'il te plaît, merci.
D'accord, les deux. Tu es plutôt mental ou cœur ?
Mental ou cœur ?
Oui.
J'essaie d'être mental, mais je suis plutôt cœur.
Ok. Tu es plutôt mélancolique ou bonheur ?
Mélancolique, parce qu'elle fait, ça fait la mélancolie est nécessaire au bonheur.
Ok. Tu es plutôt ciné ou canapé ?
Ciné ou canapé ?
Ouais.
Oh, ciné.
Ciné ? Tu es plutôt restaurant ou amitié ? Restaurant ou pique-nique, pardon.
Non, je choisis pas, là.
Ok, les deux.
Ouais.
Tu es plutôt... Celle-ci, elle pique toujours un peu. Amour ou amitié ?
Je fais pas la différence.
Ok. Oui, certains me disent l'amitié, c'est de l'amour.
Non, enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est... On s'entend bien avec quelqu'un selon ses penchants, on va dire, et son sexe, ça devient de l'amitié et puis ça peut être de l'amour. Et puis j'allais dire selon le bon moment aussi.
Et oui, il y a aussi le moment.
Toute chose.
Tu es plutôt ombre ou lumière ?
Alors, je vais encore dire les deux et je vais te dire une phrase qui est... dans ma tête tout le temps, choisir c'est exclure c'est soustraire. D'accord. Donc c'est déjà toujours moins toujours. Donc plutôt aussi plutôt ça.
Ouais, mais après la question, oui bien sûr.
Voilà,
bien,
donc
oui.
thé ou café c'est clair pour moi. Mais après cette dernière question, je ombre ou lumière. Alors allez, je vais répondre en plaisantant et c'est la vérité. Je suis plutôt ombre parce que le soleil me fait du mal.
Ok, voilà. Très bien. Et c'est dans l'ombre qu'on reste libre aussi. Hein. Quelque part, on en discutait juste avant. Quand on est trop sur les projecteurs. Dernière question, tu es plutôt cadenas ou clé ?
Cadenas ou clé ? Clé, je déteste les cadenas.
Clé ?
J'ai cette image des cadenas sur les... Tu sais, cette mode des cadenas pour justement déclarer son amour à
oui,
quelqu'un.
Oui, sur un pont, bien sûr. Ouais.
Je trouve ça, mais si c'est ça l'amour...
Enfermer quelqu'un, avec le symboliser l'amour.
Symboliser par quelque chose qui se ferme et que tu ne peux pas enlever. Mais au secours. Pour moi, l'amour, c'est exactement le contraire. C'est laisser l'autre vivre sa vie, quoi.
Alors,
et de l'aimer comme tel.
Et ben justement, puisque tu me dis que tu es plutôt clé, tu m'aurais dit cadenas, j'aurais trouvé une pirouette, hein, mais... Justement, je vais te poser la question, je suis venu te poser, et pourquoi je suis venu faire ce podcast avec toi. Kent, quelles sont les trois clés de vie, trois clés que tu aimerais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant? Les trois clés qui te semblent importantes.
Écoute, la première qui me vient, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai le matin quand je me réveille, c'est Carpe Diem. Mm-hmm. Voilà. Profiter du moment, l'instant présent. Et,
Donc Carpe Diem, première clé.
Bah, écoute, Carpe Diem. La deuxième, je me répète, c'est le début de l'entretien, c'est la curiosité. Mmh. Ça, c'est clair et net. La troisième, c'est se mettre à la place de son ennemi et comprendre pourquoi il est comme ça. Parce que quand je dis son ennemi, c'est quelqu'un qui ne partage pas les mêmes points de vue que soi. Savoir comprendre son, l'adversité.
Et une part d'empathie, alors? Question d'empathie, d'écoute.
Oh,
de...
ça va pas si loin.
Enfin, ouais.
Ça va pas
juste
si
simplement
loin.
Comprendre.
Comprendre, ce n'est pas justifié, mmh. aurait dit Primo Levi. Voilà. C'est, à un moment donné, c'est... Pourquoi, je ne comprends pas ce qui, pourquoi il agit ainsi. Je ne comprends pas pourquoi il pense ainsi. Je me mets à sa place. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la politique, je trouve. Mmh. Et, politique du quotidien. C'est, voilà, je trouve qu'il faut comprendre ça et on s'en porte mieux après parce que ça peut aussi nous dévoiler nos limites
et nos parts d'ombre aussi peut-être.
Pas la part d'ombre, c'est un grand mot, ça irait pas jusque là, mais disons nos radicalités.
Donc carpe diem, première clé, deuxième clé, la curiosité, troisième clé, comprendre l'autre.
Voilà, comprendre l'autre, quel qu'il soit, quel qu'il soit.
Super, trois superbes clés. On a bientôt fini, il me reste deux petites choses à te demander. Première chose, ce sont des coups de cœur.
Ouais.
Et là, ça peut être quelque chose qui t'a réellement marqué ou quelque chose que tu as découvert il y a peu de temps. Alors, trois coups de cœur, un coup de cœur cinéma d'abord. Mm-hmm. Quel est ton coup de cœur cinéma, peut-être quelque chose qui t'a marqué ou le dernier coup de cœur que tu as eu de cinéma? Film, série ou autre?
Cinéma, écoute-moi, ça devient...
On parlait de cinéma polonais tout à l'heure.
Mais... Ouais, mais ça devient un marronnier, parce que le film qui m'a bouleversé, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace.
Stanley Kubrick.
Voilà, j'avais 11 ans quand je l'ai vu, et j'en suis ressorti autrement. Voilà, et ça me reste, et je peux le voir, je me retiens de le regarder tous les ans. Voilà,
Comme certains regardent toujours le même film à Noël.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, je ne me lasse pas de ce film.
Avec un réalisateur, avec une œuvre incroyable.
Absolument. Ouais. Alors voilà, ça c'est le coup de cœur à vie.
D'accord.
En dernier coup de cœur, c'est peut-être, j'ai bien aimé récemment, j'ai vu un des premiers films de Mocky qui s'appelle Les Dragueurs.
D'accord.
Et j'ai regardé ça comme ça et j'ai été surpris par le ton qui n'est pas du tout, qui n'est pas encore le Mocky qui allait venir après.
D'accord.
Tout dans la bizarrerie et l'ironie. C'est un film très touchant.
Une vraie peinture sociétale.
Ouais, c'est ça. Et c'est. Merde, pareil, j'avais trouvé un adjectif pour le définir quand j'en parlais à quelqu'un hier et ça ne me revient pas. Enfin bon, voilà, peu importe. C'est un film à voir, je trouve. Ça raconte une époque, un comportement, rapport garçon-fille, homme-femme dans les années 60 qui est important de voir aujourd'hui pour peut-être comprendre l'évolution exactement.
Ouais. Donc Stanley Kubrick, 2001, du C'est de l'espace, et puis donc Jean-Pierre Mocky, Les Dragueurs. Ton coup de cœur, livre? Peut-être récent, ou peut-être quelque chose, un livre, ou peut-être un livre de chevet, quelque chose qui vraiment que tu as envie de partager.
Ça, c'est
compliqué, oui, je sais.
Ouais, non, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste. J'ai besoin de temps parce que ça me saute pas. Encore une fois, je tombe dans les poncifs. Je vais parler de Bel Ami de Maupassant, qui est un bouquin que j'ai lu et relu. Je vais parler de L'automne à Pékin de Boris Vian, que j'ai lu et relu. Mais il y a aussi des livres, je sais pas, Sapiens de Yuval Noah Harari. C'est un livre important, je trouve, et pas que pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a apporté un regard nouveau sur l'évolution de l'humanité, un regard différent. Il a placé sa caméra autrement que justement les poncifs qu'on nous sort depuis l'Antiquité, j'allais dire. Et voilà, et je trouve que c'est bon de lire ça, quoi. Je sais pas si tu l'as lu.
Non, je l'ai pas lu du tout.
Eh bien, je te le conseille, franchement, parce que c'est voilà. Il a donné un coup de pied dans la fourmilière, je trouve. Je trouve qu'il y aura un avant et un après Yuval Noah Harari. Parce que c'est l'époque qui le permet, hein, aussi. On sort de l'anthropocentrisme avant, on était le centre de l'univers, on est devenu le centre du système solaire, et puis tout doucement, parce qu'on se considère plus intelligent, plus abouti et tout, et lui, il dit « Oui, d'accord, mais on a peut-être fait fausse route dans notre évolution. » Et oh.
remettre en cause.
Ça va loin. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ça.
Dernier coup de cœur, ton coup de cœur musique, je l'ai gardé pour la fin.
Ouais.
Alors, on a parlé des Chic Types avec qui tu as collaboré. Est-ce qu'il y a un coup de cœur?
Ouais. Alors là, c'est un coup de cœur, c'est même un coup de foudre. C'est Patricia Kopaczynskaya, qui est violoniste plutôt classique, on va dire, que j'ai découvert par hasard en achetant un disque, parce que le titre me plaisait. Ça s'appelait What's Next, Vivaldi. Je me dis, tiens, c'est marrant, un disque de Vivaldi. Puis je lis un peu la note, et puis je trouve ça intéressant. Une nouvelle façon d'aborder
là aussi ça bouscule.
Vivaldi. Ouais, ça bousculait, ouais, c'est ça. Et effectivement, l'interprétation des œuvres de Vivaldi, donc il y avait l'orchestre Il Giardino Armonico, qui est spécialiste de musique baroque et de Vivaldi, donc eux, ils étaient dans leur rail, quoi. Et puis il y a cette Patricia Kopaczynskaya qui était premier violon et qui est venue jouer avec eux. Et ils interprètent Vivaldi d'une manière, mais avec une fougue, un dynamisme dingue. Et les morceaux de Vivaldi sont entrecoupés. Et ça, c'est le secret de ce label, le label Alpha, d'œuvres contemporaines.
D'accord.
Très courtes, qui font des interludes comme ça et qu'on pourrait et qui sont jamais hors propos. C'est toujours une prolongation de ce que tu as entendu. Voilà. Et donc, en écoutant ce disque, je me suis dit, tiens, je vais écouter d'autres choses qu'elle a faites. Et plus j'en écoute, plus j'aime ces disques-là.
La créativité,
ouais. Sa démarche.
L'audace, au final.
Voilà, cette audace. Elle a une quarantaine d'années. C'est une musicienne classique très ouverte. Et qui aborde justement le contemporain et le baroque avec la même générosité, le même, je pourrais dire presque la même insouciance. Voilà. Et ça m'émeut, ça me transporte. En ce moment, je n'écoute que ça.
Peut-être rappeler son nom.
Patricia Kopaczynskaya.
Ok, donc moi je mettrai le lien, bien entendu, ouais, de tous tes coups de cœur, les trois coups de cœur que tu viens de nous donner. Dernière question. Ou plutôt dernière question.
Encore une, mais je croyais qu'il y en avait
une. Dernière. Mais tu vas voir, c'est pas une question. Si, c'est une question, mais tout à l'heure, on a fait un voyage.
Ouais.
On a pris une voiture, la DeLorean, on est allé dans le passé. On s'est retrouvé face à ce Kent, 6-8 ans, à ce petit garçon. Mais il s'avère que c'est un coquin, c'est un malin. Quand on est revenu, il s'est glissé dans la voiture, on n'a rien vu. Alors maintenant, je vais te demander un peu d'imagination, mais je pense que ça devrait pas être compliqué. Imagine, là, dans mon dos, un monsieur qui passe. Ce petit garçon, il arrive là. Il arrive, il passe derrière toi, il vient s'asseoir là où tu as posé ta petite pochette, il s'assied ici à côté de toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce petit garçon, ce Kent, 6-8 ans?
Je lui poserai d'abord la question de savoir si il aime toujours la bande dessinée. Est-ce qu'il a envie de devenir dessinateur de bande dessinée?
Ouais.
Et je lui apprendrai. le dessin.
Transmission.
Parce que voilà, j'ai trop... j'ai... Souffert, c'est un grand mot, mais c'était une grosse frustration pour moi de ne pas être compris à cet âge-là sur ce point de vue. Donc et je lui demanderais s'il aime la musique et s'il a envie d'apprendre la musique, ce qui était au fond de moi quelque chose. Parce que déjà présent, parce que j'ai souvenir que j'écoutais la radio et que j'apprenais par cœur les chansons, tout ce qui passait, ça m'intéressait et je l'apprenais, ça faisait rire toute la famille d'ailleurs. Donc voilà, je crois que j'étais destiné à être artiste et là aujourd'hui j'essaierai d'être le grand-père qui aide ce môme à s'accomplir et ne pas subir le complexe là du
l'imposteur.
Voilà, ça c'est ce qui se passerait.
Jolie transmission en tous les cas. Ouais. On a bouclé la boucle, je crois, par des curiosités. Transmission. Bah, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir accepté de participer à ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui. Et puis, bien entendu, moi, je vais continuer mon chemin, tu vas continuer le tien. Je te rappelle à toi qui écoutes ce podcast que, bien entendu, tu peux le retrouver sur toutes les plateformes, hein, aussi, via ton téléphone, mais aussi via ton ordinateur, sur les Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, etc. Si tu es artiste, auteur, compositeur, interprète, eh bien, tu m'intéresses. Donc, n'hésite pas à m'envoyer par le mail lespasseursdeclés@gmail.com, lespasseursdeclés avec un s@gmail.com, bien un lien ou un titre. Un morceau que tu vas composer, pourquoi pas, pour pouvoir faire découvrir un petit peu ton art et ce que tu fais. C'est aussi, sont aussi des artistes, sont aussi des passeurs, donc c'est important de les mettre en avant. Et puis, merci Kent d'avoir accepté de jouer le jeu des passeurs de clés, et puis d'avoir osé avoir la curiosité dans un premier temps, et puis de transmettre comme tu l'as fait. Moi, j'ai passé un excellent moment, j'ai découvert un homme attaché et attachant.
Mmh.
En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et en tout cas, une chose qui est certaine, un homme vrai. Et ça fait du bien.
Merci.
Allez, on se retrouve bien entendu très 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 vite pour un nouveau podcast des passeurs de clés. Alors, sincèrement, je ne sais pas du tout où je serai, je ne sais pas. Je sais qu'en tous les cas, ce sera pour toi un dimanche. Ce sera le prochain dimanche, en tout cas dans 15 jours. Et puis, d'ici là, bien entendu, comme je le dis toujours, n'oublie jamais de dire.
Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.